Vous écoutez RTL.
Il est grand temps de partir dans la curiosité cuisine et technologie.
Exactement, Christophe. Sachez que c'est déjà
bonjour,
dans la curiosité. On va découvrir les exosquelettes, ces armures qui permettent de nous donner plus de force. Leur mission, c'est soulager les travailleurs dans leur boulot pénible, mais aussi les personnes handicapées ou les personnes âgées pour les aider à se mouvoir toute seule. C'est une révolution qu'on vous dit.
Tout de suite, donc, on s'invite à la table des grands chefs sur RTL.
Maïté, quel est le menu du jour?
Je ne me rappelle plus.
La brandade et la morue du Pays Basque.
Et la morue du Pays Basque, ah, ça y est.
Oh, j'ai baissé le gaz, mais les friands, ils sont noirs comme des charbons.
Oh, excusez-moi, faut que je fasse tout ici.
La curiosité est un vilain défaut.
Vous voulez que je vous prépare les œufs, que je vous les écaille,
oui,
le
si
temps que vous
voulez.
Mettiez vos herbes? Je suis désolée, mais il faut couper parce que les œufs ne sont pas durs, ils sont mous.
Tortellini à la crème et champignons.
Vous n'avez rien compris. On peut pas mourir en mangeant.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre cabinet de curiosité. On va, vous l'avez compris, particulièrement savourer notre menu aujourd'hui. Ça
j'aimerais,
va Sidonie?
J'aimerais pouvoir vous dire ça Thomas, il faut que je vous les écaille vos œufs ou pas? Voilà, je trouve ça vraiment savoureux.
Ça commence bien.
Très bien,
ça commence très bien.
Salut les curieux, on aime varier les blagues, les saveurs, vous le savez dans cette émission. Il y en a pour tous les goûts et toujours il y a de la bonne humeur.
Ouais, j'espère bien, tiens, cette semaine par exemple, on a exploré le hameau de Marie-Antoinette à Versailles, découvert l'univers des sorciers d'aujourd'hui, de René Lacoste, le crocodile, et puis du lobby des armes aux États-Unis.
La semaine prochaine, c'est pas fini, on va expliquer la formation des orages, se plonger dans les archives insolites des Coupes du Monde de foot et rencontrer un archéologue qui ne se prend pas pour Indiana Jones.
Allez, tout de suite, comme promis, ce sont des grands chefs qui nous attendent et qui mieux pour nous raconter leur histoire que Thierry Marx. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
On est très heureux, très fiers de vous recevoir. Vous êtes à la tête de 5 restaurants, vous avez 2 étoiles au Guide Rouge, 5 toques au Goemio. Vous avez aussi été l'un des piliers de Top Chef sur M6. Et puis, il y a aussi cette dimension, ce lien social que vous faites avec votre cuisine pour rassembler les humains, que ce soit en prison ou pour des jeunes sans diplôme. Et là, vous avez donc voulu raconter l'histoire des grands noms de la cuisine dans un livre. Pourquoi? Parce qu'il y a une filiation?
Oui, il y a une filiation, il y a des parcours communs. On pourrait se les approprier assez facilement, d'ailleurs, avec les chefs d'aujourd'hui. Et puis, montrer toute la richesse du patrimoine culinaire français. Si la France en est là, sur le plateau mondial de la gastronomie, c'est parce qu'elle a un patrimoine très solide en termes de diversité, en termes de grands chefs techniciens.
Et on va, grâce à vous, découvrir quelques-unes des recettes de ces grands chefs. Le livre commence par un hommage à Paul Bocuse, qui est mort le 20 janvier dernier. Quel rôle il jouait dans la communauté des chefs?
C'était un leader, donc il a tout inventé. C'est-à-dire qu'il a synthétisé un petit peu ce qu'il faut être quand on est chef et quand on veut être chef reconnu de façon planétaire. Savoir faire et faire savoir. Donc il a compilé ses 3 cerveaux finalement et il a montré toute la richesse du patrimoine français, mais sur l'ensemble de la planète. Il a évangélisé la cuisine française.
Parce que c'était un as de la com, Paul Bocuse, il a fait sortir les chefs des cuisines, en quelque sorte, Thierry Marx.
Oui, alors il y avait beaucoup d'humour, le chef Paul. Et d'abord, c'était un grand artisan. Ensuite, c'est vrai qu'en termes de communication, il a donné des leçons à beaucoup. Et il a su aussi un grand manager. Donc, il avait beaucoup de... Alors, quand on lui disait, c'est vrai, chef, vous avez fait sortir tous les cuisiniers de leur cuisine. Et il disait de temps en temps, oui, mais j'aimerais bien qu'ils y retournent.
Oui, parce qu'il y a du boulot. D'ailleurs, oui. Thierry Marx, quel est le plat, la recette phare pour vous de Paul Bocuse?
Oh, c'est le bar en croûte. Moi, j'ai souvenir d'une discussion avec lui sur la tomate farcie à base de porc et de queue de bœuf. Mais j'ai un grand souvenir de bar en croûte chez
lui. Qu'est-ce qu'il a, ce bar en croûte? Vous nous le décrivez, ouais.
Ah, c'est très compliqué à faire, un bar en croûte. C'est un poisson entier qui a été désarrêté et ensuite roulé dans un feuilletage et cuit assez longuement au four, mais en faisant en sorte que la chair du bar ne soit pas trop cuite.
Ah oui, que le croustillant, le feuilleté, soit pas non plus trop croustillant.
Exactement. Et puis, on se rappelle tous de la soupe VGE, cette soupe aux truffes.
Oui, au nom de l'ancien président de la République.
Exactement.
Valéry Giscard d'Estaing. Alors, ces portraits de chefs, on les retrouve donc dans ce livre, Chef à la carte, écrit avec Bernard Thomasson, publié au Seuil. Alors, on y trouve forcément, j'ai envie de dire, une majorité d'hommes, parce que l'histoire de la cuisine, quand on remonte très loin, plusieurs siècles en arrière, elle est d'abord masculine.
elle est d'abord masculine parce que ce sont des métiers très durs. N'oublions pas que Carême meurt parce que ses bronches sont brûlées par le charbon des fourneaux. C'est un métier très très difficile.
On est à quelle époque
Là, on est fin du 18e. Ouais. Et donc ces métiers sont très durs. Des extractions sociales extrêmement dures parce que tous les chefs qu'on a présentés, y compris chez les femmes d'ailleurs, c'est le cas aussi de la mère Brasier, arrivaient d'extractions sociales extrêmement modestes. Carême, par exemple, avait été abandonné à l'âge de 5 ans. Mmh. Et puis des hommes qui se sont faits tout seuls, à la force du poignet, avec une adaptabilité absolument incroyable. Ils ont su se nourrir de leur écosystème dans lequel ils étaient et c'est devenu des chefs référents.
La mère Poulard, justement, c'est une femme, c'est un destin qui est évidemment incroyable et indissociable du Mont-Saint-Michel. Pourquoi c'est un destin hors du commun, Thierry Marx ?
Milieu modeste, elle épouse un boulanger, donc rien d'extraordinaire là-dedans. Et puis, elle va se marier et elle va trouver cette opportunité d'aller travailler, évidemment, au Mont-Saint-Michel. Et elle va comprendre le mécanisme de la cuisson d'une omelette. Une omelette, c'est pas tant la recette qui est importante, c'est le geste et la convection par le feu. Et il y a une aromatisation de cette omelette qui est absolument extraordinaire.
Alors, vous savez quoi ? La recette de l'omelette façon Mère Poulard au feu de bois, vous allez nous la raconter dans un court instant sur RTL. Puis on va aussi, si vous le voulez bien, hein, Thierry Marx, déguster la pêche Melba d'Augustin Escoffier.
Ah, donc on fait un plat dessert.
Oui, on peut se faire ça,
bien,
plat
mais
dessert.
Mais on a oublié l'entrée, hein, on se rattrapera. Gourmande.
Thierry Marx est un rock, c'est un franc-tireur, un créatif insatiable, un chef cathodique mondialement connu et reconnu. La curiosité est un vilain défaut. Sa cuisine moléculaire aux accents asiatiques est étoilée, enviée, admirée par les plus grands guides gastronomiques.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Mais lui pense d'abord en termes de plaisir et de partage.
La cuisine est un débat ouvert, permanent et immuable.
Aujourd'hui, à son tour, il veut transmettre.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
La curiosité, on est ensemble jusqu'à 15h sur RTL et on vous emmène dans les cuisines des chefs avec notre invité Thierry Marx, chef lui-même. Chef, ce titre, comment on l'obtient, Thierry Marx ?
C'est au fur et à mesure des années de votre implication dans le métier. Un jour, vous finissez par diriger une équipe, une brigade, comme on dit, dans le jargon professionnel. Et puis, voilà, il faut assumer, il faut être devant et montrer l'exemple, surtout.
Et alors, forcément, on doit être autoritaire quand on est chef dans une cuisine, Thierry Marx.
Parce qu'il y a une brigade. C'est des termes militaires, tout ça, chef. Brigade.
Autorité ne veut pas dire autoritarisme. Mmh. Ça, c'est une chose. Terme militaire, je vais répondre là-dessus. C'est vrai que pendant toute la monarchie, c'était un officier de bouche qui était en charge des repas du roi pour sa sécurité et ensuite pour répartir la tâche de travail. Donc il y a effectivement un ordonnancement, mais il n'y a rien de militaire là-dedans, vu que c'est Auguste Escoffier en 1903 qui va décider de l'organisation managériale d'une brigade de cuisine.
Alors justement, on va parler d'Auguste Escoffier et puis juste après de la mère Poulard, parce qu'on a promis la recette de l'omelette, oui, hein, on l'oublie pas, mais Auguste Escoffier, vous dites que c'est un humanisme qui a révolutionné la cuisine, pourquoi ?
Un complètement grand monsieur qui voulait pas d'abord être cuisinier, hein, il voulait faire les beaux-arts. Il va rentrer dans le métier quand même très 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 jeune. Il va observer ce métier, il va savoir s'entourer et notamment il va travailler avec César Ritz qui va l'aider là aussi à grandir. Et il va comprendre les mécanismes, donc savoir faire. Et faire savoir, c'est déjà aussi Auguste Escoffier. Savoir-faire, il va l'apprendre très rapidement dans les grandes brigades. Il va devenir un chef international parce que Savoy, il va apprendre l'anglais, travailler avec César Ritz. Et ensuite, il va regarder le métier tel qu'il fonctionne. Donc il va être...
C'est-à-dire qu'il va changer l'organisation en cuisine.
Il va changer l'organisation de travail. Oui. En 1912, quand il écrit le grand livre des menus, il dit, par exemple, pour faire un repas de 600 personnes, il me faudra 60 cuisiniers et il répartit les tâches. Parce qu'il dit, à notre époque, personne n'attend plus d'une heure à table. 1912. Vous voyez, ce menu de 1912. Donc c'est un homme très, très, très instruit, qui ne cesse de s'instruire et qui va être très près du people de l'époque. On parle de Nelly Melba, cette femme qu'il a rencontrée, formidable, à qui il a fait cette fameuse pêche Melba.
Elle faisait quoi, cette Nelly Melba ?
C'était une cantatrice australienne qui était venue en France et qui lui avait envoyé une invitation pour aller à Lohengrin. Et en échange, il lui avait fait un repas et c'est ce fameux dessert des pêches Melba. Alba.
Mais il faisait ça souvent, Auguste Escoffier. Il dédicaçait comme ça des plats à ses clients préférés.
Oui, parce
que
c'était,
de sa vie,
c'était je sais pas si on peut le citer là, mais c'était un peu l'Instagram de l'époque. Il fallait se peopleiser, il fallait se faire connaître. Et de qui parlait-on en 1910-1912? Des cantatrices, des Sarah Bernard qui étaient de grandes comédiennes, etc. Il fallait être proche, ces gens-là.
Thierry Marc, vous avez des plats, vous avez créé des plats qui portent des noms de personnes célèbres?
Hélas, pas pour de grandes personnalités. Non, j'aimerais, mais non. Je le fais pour les copains, moi, c'est plus simple.
Plus sympa.
C'est quoi votre plat de copain préféré, alors?
Ah, mon plat de copain préféré, ça reste les pâtes. Je crois que c'est vraiment un truc marrant.
Mais avec quoi?
La pâte, c'est quelque chose.
Ah oui, voilà.
C'est 10 œufs, 500 grammes de farine, une pâte très étirée.
Ah oui, vous faites les pâtes, pardon.
Ah oui, bien sûr. À l'eau minérale et avec une sauce tomate pour enrober les pâtes.
Ça y est,
j'adore.
C'est parfait, ça nous va très bien.
Ça y est, je salive. Et donc, cette omelette cuite au feu de bois par la mère Poulard, d'ailleurs, c'est la même époque qu'Escoffier. On est à cheval sur le 18e et le début du 19e et début du 20e. Comment elle la faisait, cette omelette?
Alors, l'omelette, elle l'a un peu appris dans les livre hein, d'Escoffier. Elle comprend que d'abord qu'une omelette, des œufs, ça se bat à la fourchette et pas au fouet. Et ensuite, l'onctuosité, le jeu de texture et de température d'une omelette, c'est le mouvement de la poêle et de la fourchette. Vous battez les œufs, vous assaisonnez, poêle suffisamment chaude pour saisir les premières albumines et vous tournez, il y a un geste rotatif, gauche sur droite sur gauche, et vous roulez l'omelette, ce qui lui fait ressembler à un gâteau, et à l'intérieur évidemment vous pouvez la farcir de ce que vous voulez. Et l'omelette de la mère Poulard, c'était ça, ce jeu de texture et de température qui crée de l'émotion. C'est pas gastrique, hein, c'est cérébral la cuisine.
C'est ça.
Et ça faisait savourer, saliver tous les chefs d'État français, parce qu'il y a une tradition depuis Clémenceau, tous les chefs d'État, ils mangeaient au moins une fois
l'omelette de la mère Poulard. D'ailleurs, le Michelin a tardé pour mettre une étoile. Maintenant, je crois qu'il y a une étoile chez la mère Poulard. C'est bien dommage qu'elle ne l'ait pas eu de son vivant. Mais vraiment, c'était un lieu patrimonial, vraiment un repère pour les hommes politiques. Même Jacques Chirac était allé manger avant son élection cette fameuse omelette.
Chef à la carte, c'est le titre de votre livre, Thierry Marx. On y découvre aussi les inventeurs comme Gaston Lenôtre, un pâtissier génial qui avait des idées, beaucoup d'idées. On les découvre ensemble sur RTL.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
Un mélange de témoignages, de bonne humeur, de proximité, d'ouverture d'esprit, de partage. Voilà la recette d'On est fait pour s'entendre que l'on savoure ensemble en direct chaque jour de 15h à 16h sur RTL.
On va mettre un petit peu de beurre.
Le lard n'est pas suffisant.
Si, le lard est suffisant, mais ce petit goût de beurre, ça donne quand même bon goût. Hein.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Halte diététique, parce que chez nous, qu'est-ce qu'il faut? Du beurre, de la crème, les vins, les crus, si on supprime ça, on n'a plus besoin d'être en France.
Comme vous, ils sont curieux.
On veut des fraises à Noël, on veut des pommes au mois de juillet. Donc restons sérieux, la France est le plus beau pays pour les produits. Vivons avec nos produits.
Si votre défaut, c'est la curiosité...
Allez, bon appétit. Et comme on dit à Lyon, large soif.
Alors vous êtes bien sur RTL.
Bon appétit, large soif, le bon sens, signé Paul Bocuse. On a aussi découvert l'histoire de la mère Poulard, d'Auguste Escoffier. On va parler maintenant de Gaston Lenôtre. On découvre ses destins français grâce à notre invité, le chef Thierry Marx. Alors, je dis, on va parler des inventeurs maintenant, mais on pourrait dire ça aussi d'un Auguste Escoffier. Mais par exemple, Gaston Lenôtre, on va raconter son histoire. Déjà, quand est-ce qu'il tombe dans la pâte à gâteau?
Il tombe dans la pâte à gâteau dans sa petite enfance. Déjà, il est entouré par ce métier. Il va grandir sur Pont-Audemer, venir à Paris comme pâtissier, et il va tout de suite avoir le projet de devenir chef d'entreprise. Et puis, de considérer qu'il n'y a pas de conflit entre tradition et innovation. Donc, l'innovation va le faire se développer. D'abord, il va ramener le salé dans le monde de la pâtisserie, les quiches soufflées, les coulibiacs de saumon, tout ça. Et ensuite, il va développer de la formation professionnelle, très important. Et puis, il va savoir se développer avec différents points de vente. Et puis, il va aller vers les techniques très pointues de la surgélation, par exemple, pour les gâteaux. C'est pas un gros mot, la surgélation. Ça a amené énormément à la pâtisserie française pour qu'elle se développe et puis qu'elle s'internationalise.
Ça veut dire qu'il invente quoi, Gaston Lenôtre? Il invente les vitrines réfrigérées, c'est ça?
Il va travailler sur les vitrines réfrigérées, il va travailler sur le froid, il va travailler sur la mise en place, de faire entrer un système de production extrêmement efficace pour qu'on puisse livrer plusieurs points de vente dans Paris. Et ça va être une révolution, parce que ça va être le quasiment le premier traiteur de haut niveau à Paris. Et ça ne se dément pas encore aujourd'hui. C'est une grande maison avec, je crois, 12 ou 13 ou 14, je crois, meilleurs ouvriers de France qui travaillent en permanence sur le site de la maison Le Nôtre.
Et Le Nôtre qui a eu aussi une bonne idée marketing pour faire rentrer les clients dans ses pâtisseries. Qu'est-ce qu'il diffuse à l'extérieur?
Alors, il a connecté les sorties des bouches, qu'on appelle des bouches de four, directement sur la rue. Donc, on sent les gâteaux qui cuisent, l'aromatisation.
Et beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui, non?
Alors oui, mais ils le font de façon un petit peu industrielle, avec des produits, des molécules de synthèse. Il y a pas, là, c'était vraiment le gâteau, le Paris-Brest, la pâte à choux qui cuisait.
C'était quoi son gâteau fétiche à Gaston Le Nôtre?
Le Paris-Brest.
Le Paris-Brest, pourquoi?
Oui, parce que d'abord, c'est sa région. Paris-Brest, ça passait en Normandie, cette course cycliste. Et puis, il y avait cette onctuosité de la crème, ce geste artisan. Si on pouvait ramener à quelque chose de fort sur Gaston Le Nôtre, c'est de dire il a su rester un artisan avec une rigueur industrielle. Et tout ce qu'il a développé à l'international, eh bien c'est ça. C'est rester un artisan, et c'est toute cette émotion quand on parle d'artisanat, et en même temps c'est devenu une rigueur industrielle, et il a su s'épanouir comme ça en tant que chef d'entreprise.
Alors on remonte le temps jusqu'au XVIIIe siècle pour découvrir un autre pionnier, il s'appelait Antoine de Beauvilliers. C'est quoi son idée géniale en 1782?
C'est un mondain, Beauvilliers. C'est-à-dire que c'est qu'un type qui est cuisinier, oui, il a été officier de bouche pour le bon gros Louis XVIII, qui a eu, le faciès comme ça, un peu, et des aventures un peu courtes. Mais lui, il va devenir restaurateur. Et ça va être l'as de la communication, lui aussi, parce qu'il va devenir restaurateur. Et puis, on dit qu'il voit passer les premiers aérostiers, les premiers ballons dirigeables, enfin, les premiers ballons volants. Ça va lui donner l'idée du soufflet. Il a communiqué là-dessus. Purée de pommes de terre dans laquelle il ajoute des blancs d'œufs. Il cuit ça assez longuement au four, ça cuit 45 minutes. Et c'est une espèce de quelque chose de soufflé qui semble vouloir s'envoler d'un moule. Et voilà, le soufflé à la Beauvilliers, c'est la marque de fabrique.
Mais est-ce qu'on peut dire, Thierry Max, qu'il a inventé le restaurant? C'est-à-dire c'est ce lieu dans lequel on se réunit pour bien manger.
Il a inventé le restaurant, c'était surtout le côté café. Et à cette époque-là, il n'y a que des bouillons pas chers, dans l'esprit des bouillons Chartier, par exemple. Et il n'y a que ça. Mais il n'y a pas de lieu mondain. Il n'y a pas de lieu où le petit bourgeois peut rencontrer le grand bourgeois, ou la jeune courtisane ou les jeunes courtisanes peuvent se rencontrer. C'est là, et ça va être chez Beauvilliers. Et Beauvilliers va entretenir cette idée du restaurant, et du restaurant de luxe, pas d'espèce de gargote, ce que pouvait être un bouillon, par exemple. C'est lui qui met au point l'idée du restaurant.
On termine dans un instant avec un chef qui a bercé nos dimanches sur RTL et qui a souvent aussi été l'invité des grosses têtes.
Moi je dis, dans la vie, quand on a inventé un ou deux plats, c'est déjà exceptionnel.
Vous en avez inventé combien?
Ah, pas mal. Alors, je voulais dire, les champignonnettes de grenouille à la purée d'ail au jus de persil qu'on fait le tour du monde, la soupe d'escargot aux orties, le cendre à la fondue d'échalote au vin rouge, et ma côte de veau épaisse de 450 grammes.
Ça fait beaucoup plus de deux,
avec une purée de pommes de terre aux truffes.
Aïe, aïe, aïe.
Voilà. Et donc ça, je peux vous dire une chose, c'est des plats qui me collent à la peau, et le plus dur, c'est ce que c'est, Philippe, c'est de les faire bons tous les jours, les plats.
Ah, le débit mitraillette inimitable de Bernard Loiseau, on raconte son histoire dans un instant. Et puis juste après, sur RTL, on change d'ambiance pour partir à la découverte des exosquelettes. C'est quoi déjà ?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Toujours avec Thierry Marx qui nous fait découvrir sur RTL ses chefs qui l'inspirent, et on termine avec Bernard Loiseau, bourreau de travail. Et vous lui devez beaucoup, pourquoi ?
Je dois beaucoup au chef Bernard parce que j'avais passé un CAP en catastrophe à la Porte Saint-Ouen, rue Béliard. Et puis on me disait, mais il faut que tu travailles avec un grand chef pour que ça valide un petit peu ça. Donc je fais le tour des grands chefs. Coup de chance, je rencontre Bernard Loiseau qui voit bien que mon CV est vide, et il me dit, mais écoutez, si vous avez fait tous ces kilomètres pour venir me voir, alors vous mangez là. Et il me fait découvrir tous ces plats, les cuisses de grenouille à la crème d'ail, etc., etc. Et je me dis, si un jour je dois faire ce métier, je le ferai comme ça, en tant que chef et chef d'entreprise. Et je rentre à Paris, je me présente dans deux restaurants, un qui me fout dehors et l'autre qui s'appelait Restaurant Taïwan avec Claude Deligne. Et Claude Deligne me dit, mais je veux bien vous prendre, mais vous sortez d'où? Et je lui dis, je sors de chez Bernard Loiseau. Il n'a pas vérifié.
Ce qui n'était pas tout à fait un mensonge, puisque c'était le dernier restaurant que vous aviez déjeuné.
Et je raconte ça toujours à la famille et à l'épouse du chef Bernard. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'émotion pour ce chef, parce qu'il était un pionnier dans le sens où il est devenu ses chefs, il faisait partie de ses chefs propriétaires qui ont osé l'action d'être chef d'entreprise et de faire ça merveilleusement bien.
Et qui était créatif, sacrément créatif.
Très créatif. Mmh. Très créatif.
Merci beaucoup, Thierry Marx. Votre livre, Chef à la carte, qui est écrit avec l'ami Bernard Thomasson, collègue de France Info, est publié au Seuil.
Merci à vous. À bientôt.
Vous écoutez RTL.